accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. C'est un danger supplémentaire qui guette les réfugiés venus chercher une vie meilleure en Europe, celui de l'addiction aux drogues, douces ou dures. Craignant que cela ne pèse dans leur demande d'asile, ces réfugiés préfèrent ne pas solliciter d'aide pour s'en sortir. D'où ce projet lancé en Allemagne, qui depuis 2015 a accueilli plus d'un million de réfugiés, essentiellement des Syriens et des Afghans. Dans trois quartiers de Berlin, des migrants sont embauchés pour faire de la prévention en addictologie auprès des demandeurs d'asile. Cela s'appelle le Peers Project. Reportage de Déborah Berlioz dans le quartier de Neukölln.
Alaa a fui la Syrie il y a 3 ans déjà. Médecin de formation, il est bien décidé à exercer son métier ici. Il suit des cours d'allemand et tente de passer des examens pour faire reconnaître son diplôme. Toutefois, tous les réfugiés ne s'en sortent pas aussi bien.
Malheureusement, je vois beaucoup de Syriens et d'Arabes dans la rue qui consomment du hashish et de la marijuana. Certains en vendent même. Je sais qu'ils font cela juste parce qu'ils ont beaucoup de problèmes et cela m'attriste.
Face à cette situation, Alaa ne pouvait pas rester sans rien faire. Il a donc rejoint le Peers Project pour venir en aide à ses compatriotes dépendants. En tout, 18 migrants ont été formés par la ville pour faire de la prévention en addictologie. Et les besoins sont immenses. À ce jour, 25 500 réfugiés sont encore hébergés dans des foyers collectifs à Berlin. Ces conditions de vie et le traumatisme de la fuite augmentent sensiblement le risque de toxicomanie. Hassan comprend pourquoi certains trouvent refuge dans la drogue. Lui est arrivé du Liban dans les années 70 et il s'est aussi engagé dans le Peers Project.
Avant de venir ici, les médias ou encore les passeurs leur ont dit que s'ils allaient en Allemagne, ils allaient avoir de l'argent, un appartement, une voiture. Les gens sont venus et maintenant, des illusions. Ils vivent à plusieurs dans une chambre, ils doivent partager les toilettes, etc.
L'idée du projet a germé en 2015 alors que les réfugiés arrivaient massivement en Allemagne. Wolfgang Jass y a participé dès le début. Il est responsable de la prévention contre la toxicomanie pour le quartier de Neukölln. Mais ses services avaient du mal à atteindre et conseiller les réfugiés. Si la langue était un obstacle majeur, c'était loin d'être le seul.
L'autre problème, c'est que nous sommes perçus comme un organe d'État. Et l'État est identifié avec la police ou bien avec les autorisations de séjour. Or, les réfugiés qui ont des problèmes d'addiction ont peur de ne pas obtenir l'asile.
Les pièces peuvent plus facilement gagner la confiance des demandeurs d'asile, mais même pour Hassan, établir le contact n'est pas toujours évident.
Dans les pays arabes, on ne parle pas des questions de drogue. On a peur d'être jeté en prison si on en parle à quelqu'un. Alors les familles cachent ces problèmes.
Les Peers organisent des réunions d'information dans les foyers de Berlin et ils doivent bientôt y effectuer des permanences régulières, le tout bénévolement. Pour se préparer, ils ont suivi une formation avec des conseillers spécialisés en toxicomanie. En 4 sessions intensives, ils ont appris les effets des différentes drogues ou encore les mécanismes du système de santé allemand. Sacha Yost, du centre d'aide Confamilia, a formé les Peers de Neukölln.
Ce qui était vraiment passionnant, c'est que nous n'avons pas fait que transmettre de la formation. Moi, en tant qu'allemand de naissance, j'ai aussi pu apprendre comment je pouvais mieux travailler avec des gens issus de la culture arabe, ce que je devais prendre en compte. Nous avons travaillé ensemble pour trouver une bonne approche.
Même avec les Peers, Sacha a souvent du mal à trouver une aide adaptée aux demandeurs d'asile.
Si quelqu'un veut faire une thérapie mais qu'il ne maîtrise pas bien l'allemand, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire une désintoxication sans parler l'allemand? Qui paye pour cela quand il n'y a pas d'assurance maladie? Tous ces détails bureaucratiques représentent un véritable obstacle.
Heureusement, l'offre se développe et de plus en plus d'associations proposent désormais des thérapies en langue arabe ou perse. Mais l'équipe des Peers reste encore incomplète. À Neukölln, elle est exclusivement masculine et on n'y parle que l'arabe. Sacha espère donc recruter rapidement des volontaires plus diversifiés.
Déborah Berlioz à Berlin, l'Allemagne où les réfugiés sont au cœur de vifs débats. Les conservateurs voudraient limiter le nombre de demandeurs d'asile à 200 000 par an et restreindre le regroupement familial, alors que les sociaux-démocrates, eux, voudraient les faciliter. Dans le l'Autriche voisine. Une mauvaise nouvelle pour les étudiants obligés de travailler pour financer leurs cours. Leurs études risquent fort de leur coûter plus cher à l'avenir. La mesure fait débat car le sujet est devenu un enjeu très politique. À Vienne, le reportage de Céline Béal.
Dans une tour du quartier des affaires, Abdelhamid Lachine, 28 ans, travaille sur des logiciels techniques. Il y passe en moyenne 25 heures par semaine. C'est ainsi qu'il finance son master en ingénierie civile. À la rentrée prochaine, il devra sans doute travailler plus, car les élèves des universités publiques autrichiennes ne devraient plus être dispensés automatiquement de frais d'inscription quand ils travaillent à côté de leur formation. Une somme de près de 400 euros à débourser pour chaque semestre d'études supplémentaires, cela fait une différence dans un budget d'étudiant, selon Abdelhamid.
Il va falloir faire des économies, mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ces 400 euros. Parce que cela vient s'ajouter aux 400 euros par an pour une carte de transport, pour les livres et pour tout le matériel scolaire. Il y a plein de choses en plus de ces 400 euros.
En Autriche, les étudiants peuvent se ménager des jours libres dans leur emploi du temps pour travailler, quitte à repousser certains examens à plus tard. Pour Abdelhamid, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de se faire une expérience professionnelle.
Cela me donne la possibilité de mettre en pratique ce que j'apprends. Ça, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, cela m'empêche de finir mes études, parce qu'il faut que je trouve du temps dans la semaine pour travailler, au lieu de suivre tous les cours.
Sur les bancs des facs, ils sont ainsi quelque 60% à concilier job et études. Mais l'année dernière, la Cour constitutionnelle est revenue sur la loi qui les dispense de frais d'inscription. Les arguments sont juridiques, le texte serait mal écrit et discriminerait ceux qui travaillent à leur compte par rapport aux employés. Bref, une révision s'impose.
Ça remonte à il y a un an et depuis il ne s'est rien passé. Il n'y a actuellement aucune volonté de faire quelque chose.
Pour Anna Lutz, représentante des étudiants au niveau national, le constat est amer.
Pour nous, ça montre dans quelle direction les responsables veulent faire évoluer le système universitaire. Moins de gratuité, plus de frais pour les étudiants. Dans cet état d'esprit, on ne voit même pas pourquoi ils perdraient leur temps à amender cette loi.
La gratuité des frais universitaires initiée par la gauche en 2008 risque donc de tomber aux oubliettes suite au basculement de la majorité. Un scandale pour la porte-parole étudiante, qui craint que beaucoup de ses 25 000 camarades qui devront bientôt mettre la main à la poche n'abandonnent purement leurs études.
Nous voulons mettre en garde le nouveau gouvernement. Des dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes ne se laisseront pas chasser de l'université sans résistance. Et le ministre devrait y réfléchir à deux fois avant de changer les règles.
Dans la République alpine, le sujet de la gratuité des études est un terrain d'affrontement idéologique. La gauche veut surtout que le plus grand nombre ait accès à l'université. La droite critique la tendance nationale des éternels étudiants qui restent inscrits une dizaine d'années en licence, master ou doctorat, parfois sans réelle volonté d'achever leur formation. Au ministère de la Science, Elmar Pichel est le directeur général de l'enseignement supérieur. Pour lui, les frais universitaires sont autant un instrument de financement des établissements qu'un moyen d'inciter les étudiants à ne pas s'éterniser. Que des avantages pour l'administration.
Parce que c'est mieux pour les performances et l'efficacité économique du système de l'enseignement supérieur.
Selon lui, on doit se demander pourquoi autant d'étudiants se permettent de prendre des petits boulots aussi envahissants.
Pour certains, cela relève peut-être en effet d'une nécessité économique pour survivre, mais pour beaucoup d'autres, cela a sans doute aussi à voir avec l'idée que la société se fait du mode de vie étudiant.
Indépendance financière ou formation universitaire, il semblerait bien que les étudiants autrichiens soient bientôt, très concrètement, confrontés à ce choix.
Alors qu'en Europe, suite à l'affaire Weinstein, des femmes vident leurs sacs pour en finir avec des siècles de harcèlement sexuel, au cœur du continent, de vieilles coutumes patriarcales ont encore la vie dure. Dans les Balkans, des femmes, des filles même, sont toujours mariées dès leur plus jeune âge. Cela se passe dans la communauté rome, Simon Rico.
Si à 16 ans, vous n'êtes pas encore marié, on se met à vous traiter de vieille fille. Voilà ce qu'avouait récemment une très jeune épouse rome de Serbie, interrogée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Selon une étude menée dans le pays en 2010, 14% des adolescentes roms se marient avant d'avoir 15 ans et un tiers donnent naissance à leur premier enfant avant leur majorité fixée à 18 ans. C'est dans les campagnes que les mariages et les grossesses précoces sont les plus nombreuses et la Serbie est loin de faire exception dans les Balkans. Pour les familles roms, souvent très pauvres, marier sa fille est une source de revenus non négligeable, sans compter que la dot est plus élevée si la mariée est vierge. D'après les témoignages, ces mariages arrangés peuvent rapporter jusqu'à 10 000 euros. Soit environ 5 ans de salaire minimum serbe. Dans le cadre de la décennie européenne pour l'inclusion des Roms, les autorités de Belgrade ont bien adopté en 2009 une « stratégie pour l'amélioration du statut des Roms », mais sur le terrain, rien n'a vraiment changé faute d'un soutien suffisant. Comme on l'avoue du côté des institutions, tout le monde est au courant de ces mariages précoces, mais on ne fait rien parce que ce n'est pas une priorité. Quant aux rares ONG qui mènent des actions de sensibilisation, elles se heurtent aux préjugés patriarcaux des chefs de clan et à un système éducatif discriminatoire. À peine 2/3 des enfants roms terminent l'école primaire. Même le Conseil national rom, l'institution représentative de la minorité, ne s'intéresse pas à la condition féminine. Autant de raisons qui font que les femmes roms sont considérées comme la population la plus fragile de Serbie.
Dès le 1er juillet prochain, les automobilistes français vont devoir lever le pied sur 400 000 km de routes secondaires à double sens. La vitesse y sera limitée à 80 km/h au lieu de 90 actuellement. C'est l'une des nombreuses mesures annoncées ce mardi par le Premier ministre lui-même pour réduire la mortalité routière. Ce qui bien sûr alimente l'affront de multiples opposants à cette décision, qu'ils soient élus nationaux, locaux ou responsables d'associations d'usagers de la route. Une fois encore, nous allons voir comment cela se passe chez nos voisins avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors, est-ce que cette limite à 80 km/h est une rareté en Europe ?
Non, Laurent, on ne peut le dire. Plusieurs pays imposent déjà une limitation à 80 sur leurs voies hors agglomération. La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, Malte, etc. D'autres, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, sont à 90 km/h, comme la France actuellement. D'autres encore ont des limitations plus élevées, 60 miles au Royaume-Uni, soit 96 km/h, et même 100 km/h en Allemagne ou en Autriche. Il faut cependant préciser que seule une dizaine de pays en Europe ont une limitation unique concernant toutes les routes hors agglomération et hors autoroute ou voie express. Souvent, on distingue route principale ou nationale et route secondaire, et deux limitations sont alors imposées, 70-90 ou 80-100. Notons que depuis une date récente, la Belgique est divisée en deux puisque le réseau secondaire flamand est désormais limité à 70 km/h contre 90 dans le reste du pays.
Est-ce que cette tendance à réduire les limites de vitesse est générale ?
Si l'on considère les toutes dernières années, la réponse est non, à l'exception de la Flandre et de ses 70 km/h. La tendance est donc plutôt à la stabilité. Mais il y a l'exemple singulier du Danemark qui vient nourrir les arguments des adversaires de la limitation à 80 en France. Ce pays scandinave a ainsi mené de 2011 à 2014 une expérience de relèvement de 80 à 90 km/h de la limitation sur certaines voies. Le bilan est étonnant. D'une part, la vitesse moyenne effective mesurée ne s'est accrue que de 0,2 km/h, car les conducteurs respectaient mal la limitation à 80 km/h. Ensuite, le trafic s'est fluidifié, les dépassements étant moins nombreux. Du coup, le nombre d'accidents a diminué. Face à ces constatations, le gouvernement danois a relevé l'an dernier à 90 km/h la limitation sur un certain nombre de voies hors agglomération. Quelques années auparavant, il avait également relevé de 110 à 130 km/h la limitation de vitesse sur autoroute.
Est-ce qu'on retrouve cette disparité des limitations de vitesse sur les autoroutes européennes, Daniel ?
Une grosse moitié des pays européens limitent, comme la France, à 130 km/h la vitesse sur autoroute. Ailleurs, la limitation est en général de 120, notamment chez nos voisins belges et espagnols, mais elle est parfois encore plus réduite, comme au Royaume-Uni, où la speed limit est fixée à 70 miles/h, soit 112 km/h. Un seul pays, la Pologne, affiche une limitation à 140 km/h. Enfin, bien sûr, il y a le cas de l'Allemagne, où plus de 50% des autoroutes ne sont assorties d'aucune limitation impérative de vitesse, même si la vitesse maximale conseillée est de 130 km/h. Sur le reste du réseau autoroutier allemand, la vitesse est en général plafonnée à 120.
100 km/h sur route, pas de limite sur 50% des autoroutes. Est-ce que l'Allemagne, pour autant, est un pays dangereux ?
Elle pourrait l'être, surtout que l'état du réseau routier et même autoroutier y est médiocre. Pourtant, force est de constater qu'il y a beaucoup moins d'accidents routiers graves en Allemagne qu'en France. 39 tués par million d'habitants outre-Rhin en 2016 contre 53 en France. Parmi les pays les moins accidentogènes, on trouve la Suède, 27 tués pour un million, où les vitesses autorisées sont assez réduites, mais également la Grande-Bretagne, 28 tués pour un million, où la vitesse sur route est plutôt élevée. Il faut dire qu'outre-Manche, les amendes pour excès de vitesse sont très dissuasives puisque les tarifs sont fonction du revenu individuel.
Alors comment cela se passe concrètement ?
Un excès de vitesse de 30 à 50 km/h sur route peut valoir au contrevenant une amende correspondant à la totalité de son salaire hebdomadaire. 500 euros environ pour un revenu moyen, mais 1500 ou 2000 euros pour un cadre supérieur. Des sommes qui ne peuvent être atteintes en France que pour de très gros excès de vitesse avec récidive. Soulignons toutefois que l'amende maximale est plafonnée à 3000 euros outre-Manche. Mais en Finlande, où ce système d'amende proportionnelle au revenu est pratiqué, il n'y a aucun plafond. En 2015, un homme d'affaires opulent a ainsi écopé d'une amende de 54 000 euros pour un excès de vitesse de 23 km/h. Ce qui n'empêche pas la mortalité routière finlandaise d'être nettement plus élevée qu'en Suède.
Donc finalement, Daniel, selon vous, il n'y a pas vraiment de recette miracle contre les accidents ?
La vitesse, l'état du réseau, l'intensité des contrôles ou la sévérité de la répression ont évidemment une influence sur l'accidentologie. Mais en la matière, rien ne remplacera la prudence, la vigilance et le sens des responsabilités des conducteurs.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella.
Allez, un peu d'amour pour terminer cette édition, et cela se passe évidemment en Italie. Un retraité, Salvino Sagone, a eu l'idée singulière de recueillir les histoires d'amour des Milanais, Cécile Debarge.
Salvino Sagone a installé ses deux chaises en pleine rue, à quelques mètres à peine du MUDEC, le musée des cultures de Milan, où sont exposées des toiles de Klimt ou de Kandinsky. À ceux qui se demanderaient ce qu'il fait là, il montre un petit carton sur lequel est écrit en capitale « J'écoute vos histoires d'amour ». Les curieux sont nombreux, mais peu sont ceux qui osent livrer leur intimité à ce parfait inconnu. Pourtant, quand ils franchissent le cap, l'expérience est d'une poésie rare. Parmi les histoires d'amour recueillies, celle d'un couple de trentenaires qui travaillent, l'un à Milan, l'autre à Turin. Trop amoureux pour ne se voir que le week-end, ils se retrouvent à mi-chemin entre les deux villes, tous les mercredis soirs, pour s'endormir ensemble. Ou bien l'histoire de cette femme d'une quarantaine d'années triste de n'avoir jamais connu l'amour et à qui Salvino Sagone a proposé d'écrire avec elle l'histoire qu'elle aurait aimé vivre pour qu'elle puisse à son tour la raconter. En réalité, cette idée est née en Uruguay, à Montevideo, et elle est arrivée jusqu'en Italie par l'intermédiaire du directeur du Festival de Poésie de Milan, lui-même uruguayen. Quand il en a parlé aux associations de poètes milanais, c'est Salvino Sagone qui a décidé de s'en emparer. Sexagénaire à la barbe blanche et aux lunettes rondes, Salvino est un amoureux de la poésie, mais surtout un amoureux tout court. Un matin de 1977, il a rendez-vous avec une jeune femme qu'il ne connaît pas encore. Le coup de foudre est immédiat et il décide de l'emmener déjeuner à Venise, ville de l'amour par excellence. Cela fait maintenant 40 ans qu'ils sont mariés. Pour le moment, cet ancien géomètre ne semble pas se lasser des histoires d'amour des autres. Tôt ou tard, je passerai le relais à quelqu'un d'autre, explique-t-il. Mais pour le moment, mon cœur et mes oreilles n'en auront jamais assez.
Françoise Grelot a réalisé mise en onde cette édition. Accent d'Europe à réécouter et télécharger sur RFI.fr à la page émission et sur l'appli Pure Radio. À demain dès 12h41.